Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Serge Abitboul.
Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est bien moi qui suis au micro pour l'animation de cette émission. J'ai jamais fait ça, alors soyez très tolérants pour les nombreuses bêtises que je vais sûrement accumuler. Aujourd'hui, on va parler de création avec des IA et en particulier, on va parler de création sonore en temps réel à l'aide d'IA générative. Waouh ! Et on fait ça avec une spécialiste du domaine, Ninon Devis-Salvi, qui vient de soutenir une thèse d'informatique à l'IRCAM et à Sorbonne Université. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique, politique, et aujourd'hui même musical.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune.fm, et sur son app mobile, sur la bande FM à Paris sur 93.1 et sur le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée. Chères auditrices et chers auditeurs, si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et en partageant notre émission. Cela nous fait connaître que ça manipule les algorithmes et...
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Quand je suis tombé par hasard sur le travail de Ninon Devis-Salvi sur l'utilisation de l'apprentissage profond pour la création musicale, j'ai été totalement scotché. Ninon adresse directement des questions qui m'obsèdent, et je suis pas le seul, sur les rapports entre les IA et la création. Elle questionne les apports de l'intelligence artificielle dans notre démarche artistique. Mais attention, on est bien loin des causeries superficielles entre potes sur le sujet. L'approche est complètement scientifique. Ninon nous amène aux frontières de l'informatique, des neurosciences, de la philosophie. Et tout cela dans un domaine qui la passionne, car elle est aussi créatrice de musique. Alors, en voiture avec Ninon, chercheuse en informatique musicale et artiste, pour un voyage à la croisée de la recherche académique, de l'innovation et de la création musicale. Bonjour Ninon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio pour l'émission Parle-moi d'IA. Peux-tu nous dire rapidement quel est le parcours qui t'a conduit à une thèse d'informatique, c'est bien ça, et d'où tu viens ?
D'où je viens ? J'ai un parcours très chaotique, mais je dirais qu'il commence très jeune, lorsque j'ai commencé la musique. J'ai commencé par de la musique classique, j'ai fait du piano, j'en ai fait 10 ans. Et arrivé à l'adolescence, en fait, j'ai découvert la musique électronique, là ça a changé ma vie. Donc je me suis lancée d'abord en tant que DJ, et ensuite en tant que productrice de musique électronique. Donc j'ai découvert les synthétiseurs, le monde fascinant de tous ces boutons et ces fils. Et en parallèle, j'ai continué dans la science, parce qu'il me semblait essentiel d'avoir quand même un background un peu plus solide, ou alors en tout cas sûr. Disons que se lancer en tant qu'artiste, c'est un peu, voilà, c'est un peu délicat parfois. Voilà, donc j'ai fait plein de choses avant ma thèse. J'ai fait une prépa maths sup, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait professeur en lycée, en université, j'ai fait un tour du monde, et après je suis tombée sur l'IRCAM, et là ça a été un peu la révélation de ok, enfin une opportunité de mêler et la créativité, notamment la musique, et les sciences. Et donc j'ai fait le master de l'IRCAM qui s'appelle ATIAM, et ensuite ma thèse.
Eh ben donc, c'est un sujet parfait. Tu pourrais nous parler un peu de ta thèse. Qu'est-ce que tu as fait dans cette super thèse ?
Alors, ma thèse, elle a beaucoup évolué. Je dirais qu'il y a un fil conducteur, c'est que quand je suis rentrée en ATIAM, donc en master, c'était en 2019. Donc à l'époque, l'IA, c'était pas du tout le boom qu'on connaît aujourd'hui. En fait, à l'époque, les algorithmes faisaient à peine des blip-bloops à peine audibles. Franchement, on n'aurait jamais pu imaginer en fait en arriver là aujourd'hui. Et je me souviens de mes cours d'informatique où on apprenait à l'époque à coder un peu des petites IA, etc., avec des résultats vraiment assez décevants. Et tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que personne n'a inventé un instrument de musique avec de l'IA dedans, donc en l'occurrence un synthétiseur avec des IA dedans? Je suis allée voir mon prof de l'époque, je lui ai posé la question, il m'a dit mais ça, c'est dur comme sujet, c'est un sujet de thèse quoi. Et là je me suis dit ok, allez c'est parti, j'en fais mon sujet de thèse. Et ensuite j'ai eu envie de diversifier un peu, Alors, en fait, pour s'attaquer à ce sujet de comment créer un nouvel instrument de musique qui n'existait pas avant, j'ai dû me poser vraiment beaucoup de questions, je dirais presque fondamentales, telles que qu'est-ce qu'un instrument de musique, en fait, comment est-ce que je fais pour construire quelque chose qui n'existait pas. Et je suis tombée très vite dans la philosophie, qui est un sujet qui me passionne depuis quand même assez longtemps. Et donc, je dirais que ma thèse, elle est moitié-moitié, moitié informatique et moitié philosophie. Et j'interroge notamment, à la fin, tout l'impact que l'IA peut avoir sur le processus créatif, sur le musicien, sur notre psyché, sur nous en tant que public, mais aussi que performeur, enfin voilà.
On va arriver à tout ça, mais avant, j'aimerais comprendre un petit peu, si c'est possible, parce que c'est peut-être que mes connaissances en musique sont trop loin pour y arriver. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Je crois que c'est le Neurorack. Qu'est-ce que c'est que cet instrument et comment on interagit avec? Il y a une IA dedans. Comment toi, en tant qu'instrumentaliste qui joue avec cet instrument, comment tu joues avec?
Alors, je vais essayer d'être la plus accessible possible. Le Neurorack, c'est un petit module. Donc, il fait partie de la famille des synthétiseurs modulaires. Donc, en fait, un synthétiseur modulaire, qu'est-ce que c'est? En gros, il y a deux possibilités dans la musique, enfin, dans le monde des synthétiseurs. Physique, j'entends, pas ceux qui sont sur un ordinateur, mais donc il y a soit les synthétiseurs classiques qu'on achète en magasin et qui sont livrés avec leurs effets, leurs possibilités, etc. Ou alors on a ce qu'on appelle les synthétiseurs modulaires, qui sont des tout petits modules qu'on achète indépendamment les uns des autres et qu'on va brancher entre eux. Et donc on va choisir en fait les fonctionnalités qui nous importent. Donc on peut acheter un effet, donc une réverb, un oscillateur pour faire du son. Enfin vraiment, il y a beaucoup plus de possibilités. Et ensuite, on les relie entre eux avec des câbles, qu'on appelle des câbles de patch. Et souvent, ça a un effet un peu wow dans le public, parce que c'est souvent des grosses machines avec plein de boutons, plein de fils, etc. Et donc, le Neurorack, c'est ça. C'est un petit module qu'on peut ajouter à son rack et qu'on peut brancher avec des synthétiseurs classiques. Alors après, comment est-ce qu'on en joue? Généralement, ça se passe par ce qu'on appelle des CV et des gates. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques. Mais grosso modo, on reçoit du signal qui vient des autres synthétiseurs pour déclencher du son. Et l'IA, ensuite, va générer ce son en fonction des informations et des signaux qu'elle reçoit. Donc, j'ai essayé de faire de ce Neurorack un instrument le plus jouable possible, entre guillemets. Mais après, dans le monde des synthés, en fait, ça reste quand même assez contraint, entre guillemets. Donc voilà, l'objectif, en fait, pour moi, c'était pas de mettre une IA qui joue toute seule. C'est vraiment d'avoir une communication avec les autres synthés et donc d'avoir ses propriétés perceptuelles. Donc, on va jouer sur le son qui est généré en fonction des infos qui sont envoyées par ce qu'on possède déjà dans sa valise de synthétiseur. Donc on va pouvoir en fait modifier la génération sonore avec ses propriétés. Donc ça peut être la brillance du son, ça peut être le bruitage du son, ce genre de propriétés-là.
Super. Alors on essaie de t'imaginer, on va essayer d'écouter un peu de ta musique pour essayer d'imaginer un peu, de te voir jouer sur cet instrument qui nous paraît encore très mystérieux. Eh ben, magnéto Jean-Philippe. Maintenant, on en arrive au sujet qui, personnellement, me passionne, c'est la créativité des IA. Alors, pour aller en douceur, pour y aller doucement, c'est un sujet qui est quand même hyper complexe. C'est quoi la créativité pour toi?
Alors, je dirais pas qu'on y va en douceur, parce que je pense que c'est la question la plus difficile de toute ma thèse. non, c'est une question qui est très très difficile. Je crois qu'elle prend une vingtaine de pages dans ma thèse quand même. Il y a plus d'une centaine de définitions. Ça a été un sujet, c'est un vrai sujet philosophique. En fait, c'est difficile de dire ce que c'est que la créativité. Alors, on a souvent tendance à essayer d'associer à des mots un peu similaires, donc le génie, ce genre de choses. Mais je crois que ce qui, pour moi en tout cas, en tant que, là je réponds vraiment en tant que musicienne plutôt que qu'informaticienne, et c'est C'est quand même un peu compliqué. Je pense que pour moi, la créativité, c'est une sorte de manière de ressentir, c'est une manière disciplinée de ressentir les choses. Donc, c'est une manière un peu disciplinée, dans mon cas, d'écouter, mais ça peut être aussi de voir, ça peut être de goûter, etc., etc. Et donc évidemment ça tombe pas du ciel, donc là il y a beaucoup de penseurs qui l'ont dit, hein, ça repose sur les épaules des géants, ça tout le monde le sait. Je pense que la créativité, elle est beaucoup liée aussi à une forme de contrainte. En tout cas moi c'est ce que j'ai fini par comprendre. Je crois qu'il s'agit pas de poursuivre. En fait, quand on essaye de créer quelque chose, on a une sorte de vide qui arrive à nous parce que les possibilités sont infinies. Donc, il s'agit pas de poursuivre l'infinité de ces possibilités, mais en fait, soit de faire des choix existentiels, et c'est là où c'est intéressant, en fait, de ressentir un peu ce que l'artiste a fait comme choix, soit de poser des limites qui font en sorte que quelque chose d'intéressant surgisse. Donc, il me semble que la créativité, alors, c'est une définition comme une autre, et vraiment, il y en a plein, hein, et on pourrait en parler assez longtemps, mais je crois que la créativité est liée à une forme de résistance, et que donc ce soit une sorte de négociation entre un contrôle et un abandon. Moi, dans mon cas, une sorte de mi-chemin entre du bruit et du sens, et que la signature, elle n'est pas dans l'outil, mais elle est en fait dans les choix de l'artiste et dans ce qu'il fait. Et ça nous ramène directement avec nos problématiques de l'IA, en fait, parce que l'IA brise un peu ce schéma de contraintes et nous invite, en fait, dans un espèce de monde qui nous semble, en fait, infini.
Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis, c'est que pour expliquer la créativité, à un moment donné, tu t'es presque mise un peu du côté de l'informatique en disant, mais en quoi je vais essayer d'être une IA va être créative, et pour ça, il faut que j'arrive à formaliser d'une certaine façon la créativité pour pouvoir la mettre dans le domaine de cette IA. Est-ce que tu penses que tu comprends mieux la créativité parce que tu as essayé de la faire faire à une machine ou c'est pas relevant?
Je pense que je comprends mieux la créativité aujourd'hui parce que je suis allée chercher ce que c'était dans le cadre de cette thèse où j'ai dû en effet l'appliquer sur une IA. Je pense que si j'avais fait une thèse en sciences sociales ou autre chose et que j'avais dû m'étendre sur la créativité, j'aurais certainement eu les mêmes genres de conclusions. Mais je pense pas que ce soit mon travail en informatique qui m'ait permis de comprendre mieux la créativité. C'est plutôt tout mon travail de philosophie qui m'a permis de mieux l'appréhender, je dirais.
Oui, ça c'est pardon, c'est très intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que aussi quand tu décris ton rack, c'est que tu ne vois pas l'IA comme créant de la musique, mais tu vois plutôt l'IA comme au service de l'artiste créateur. Donc, peut-être que je te force un peu une réponse, mais est-ce que là-dedans, ce que tu vois, c'est plutôt que l'IA doit aider à créer et son but, c'est pas forcément d'être créative par elle-même. Et ce qui est une suite de ça, c'est si l'IA crée par elle-même, qu'elle devient le rôle du créateur humain.
Il y a deux questions en une.
Excuse-moi.
Non. Je dirais que pour la première question, en fait, malheureusement, je pense que, alors je sais pas si on peut parler de ce qui est naturel à l'IA ou pas, je pense que c'est plutôt la manière dont elle est faite par les chercheurs. Je crois que naturellement, l'IA est pas faite pour être au service de la créativité et que c'est à nous, en fait, de transformer ça. Parce que si on regarde, aujourd'hui, la plupart des recherches, en fait, elles s'attellent aux IA qui créent de la musique toute seule, entre guillemets. Ça, pour moi, c'est l'exemple parfait de quelque chose qui n'est absolument pas créatif. Donc là, on n'est pas du tout sur une IA qui nous permet de développer notre propre créativité en tant qu'humain. Donc il faut que, de manière consciente, on crée des modèles, on les sculpte de telle manière qu'on leur met des contraintes pour que l'être humain puisse en avoir un maximum de contrôle dessus. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est plus compliqué à faire, en fait, finalement, que simplement faire une IA qui fait de la musique toute seule, entre guillemets. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est que un outil aussi puissant que l'IA, en fait, si cet outil est bien façonné, il peut vraiment être au service de la créativité humaine, ça c'est sûr.
Si on continue sur ce côté créativité, on entend beaucoup dire que l'entrée de l'IA dans la création va conduire à une espèce d'uniformisation, un genre de truc un peu mou du genou, qui serait pas du tout créatif. Est-ce que tu as cette crainte-là? Même si l'IA est au service du créateur, est-ce qu'on risque d'avoir des IA qui vont toutes pousser les créateurs dans la même direction et faire une espèce de truc très, très mollasson?
Je pense qu'il va y avoir deux tendances. Encore une fois, moi, j'aime quand même bien distinguer les deux formes d'IA qui apparaissent de plus en plus nettement. Donc, je crois que dans toutes ces IA qui sont un peu des IA prêtes à porter, j'allais dire, mais c'est vraiment ça, quoi, des IA où en fait l'être humain n'a rien à faire et juste à appuyer sur un bouton pour une génération. Ça, oui. Là, ça, c'est sûr qu'on va assister à une sorte d'homogénéisation des résultats, ça, c'est certain. De la même manière qu'on peut le voir déjà, ce phénomène apparaître dans les images. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces filtres jaunes là qui apparaissent sur les images. En fait, les IA qui s'entraînent sur leur propre génération, qui finissent par en fait mettre des biais dans leur génération avec ce filtre un peu jaune qui apparaît sur les images. Je crois qu'en fait... Si ça continue de cette manière-là, c'est-à-dire que là, on commence à toucher à la fin de nos propres datasets, donc c'est-à-dire un dataset, c'est ce qui permet d'entraîner les IA, donc c'est toutes les données d'entraînement. Si on épuise en fait notre stock, on va commencer à entraîner. D'ailleurs, ça arrive déjà. On entraîne nos IA sur des données qu'elles ont déjà produites. Donc là, on est en cercle en fait. On fait une boucle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi apparaître ce deuxième pan de l'IA où en fait l'être humain s'approprie complètement l'outil. Donc ça peut être de différentes manières. Hein. Moi, je l'ai fait dans ma thèse avec mon instrument, mais en fait, il y a plein de choses qui existent. Par exemple, mélanger des IA. Donc on va utiliser une IA pour faire de la musique, qui, elle, va faire de la musique à partir d'une IA qui lui a généré un texte. Puis après, on va envoyer ça dans une vidéo. Je pense notamment à un studio qui s'appelle... Il a un nom compliqué, donc je risque de me tromper. U2P050, je crois. Ce studio qui ne fait que ça, en fait. Ils font communiquer des IA entre eux pour essayer d'avoir des résultats un peu intéressants. Il y a tout un autre pan aussi de recherche qui est très intéressant, qui s'appelle la divergence active, où là on va pousser les IA en fait dans leur retranchement, c'est-à-dire vers ce à quoi elles ne sont pas habituées dans la génération. Donc ça aussi c'est hyper créatif. Donc je pense que plus l'IA va continuer, plus on va avoir des gens qui vont se l'approprier et qui vont développer des techniques pour faire des choses créatives. Et je pense que c'est ça, c'est ce pan-là qui est intéressant.
Je pense aussi. J'avais un directeur de thèse qui insistait beaucoup sur le fait qu'une thèse, c'était une contribution. Quand je vois ta thèse, sur sa mesure à lui, je suis un peu inquiet. Ta contribution, elle est quoi? Elle est presque parfois philosophique, parfois informatique, parfois c'est la création musicale elle-même. Qu'est-ce que tu pensais le plus important ce que t'aimes le plus dans ce que t'as réalisé dans ta thèse?
Oh, je peux pas répondre à ça. Je ne sais pas. Je crois que j'aime autant le fait d'avoir réussi à faire cet instrument que le côté philosophique. Je crois que le fait d'avoir réussi à faire l'instrument me plaît beaucoup parce que ça ouvre, alors c'est un prototype, hein, donc il n'est pas stable, etc. Mais en fait, ça ouvre la voie vers d'autres choses qui sont assez excitantes, je trouve. Et le pan philosophique, je crois que c'est là quand même que j'ai pris le plus de plaisir. C'était vraiment hyper intéressant et j'ai adoré faire toute cette partie. Et je crois que même s'il y a plusieurs résultats, comme tu viens de le dire, en fait, la thèse, elle se lit quand même dans une sorte de globalité, quoi. On a vraiment un bout de philosophie au début, puis une réponse technique, puis une conclusion très philosophique. Donc, il y a quand même une sorte d'homogénéité.
Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Et puis, comment tu vois ton futur aussi? C'est ce qui m'intéresse en particulier, c'est est-ce que tu vois plutôt une carrière académique, une carrière industrielle, une carrière artistique? Comment tu vois ton futur? Et qu'est-ce que tu fais, pardon?
Pour l'instant, j'ai trouvé un équilibre qui me plaît plutôt bien, où je travaille dans l'industrie. Je travaille chez Native Instruments, qui est une boîte privée, mais très connue dans l'audio. Donc, c'est une super boîte. J'adore travailler là-bas et j'ai beaucoup de liberté. Les sujets sont passionnants. Enfin, vraiment, je suis très, très épanouie là-bas. Et j'ai enfin, maintenant que ma thèse est terminée, parce que j'ai commencé à travailler là-bas avant la fin de ma thèse. Donc, maintenant que ma thèse est terminée, j'ai pu donner tout ce temps à la créativité artistique. Donc, je peux développer tout le penchant artistique que j'ai mis un peu en pause quand même pendant mes années de thèse. Donc là, pour l'instant, je suis assez contente de cet équilibre, même si finalement, ça laisse pas beaucoup de place à ma vie perso. C'est très intense. Pour ce qui est du futur, je ne sais pas. Mais je crois que ça va beaucoup dépendre de comment va évoluer cette histoire d'IA. Je crois qu'on n'est pas forcément en train d'emprunter la bonne direction et que ça me fait un peu peur. Alors déjà, je trouve que c'est difficile pour moi parce que je parle IA, je pense IA, je rêve IA toute la journée, que ce soit dans l'artistique ou dans le professionnel, et maintenant dans mes cercles d'amis, etc., puisque c'est un peu le sujet en vogue. Donc j'ai peur de finir un peu malade de ce sujet. Mais en plus de ça, je suis un peu inquiète, en fait, de la suite. Je vois les gros groupes qui s'emparent de ce sujet et qui ne mènent pas la recherche dans la bonne direction, je crois.
Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que tu fais dans cette entreprise? Ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce que tu y fais?
Dans l'entreprise, je suis vraiment, pour le coup, j'ai ma casquette de codeuse. Et donc, je prends des modèles ou je code mes propres modèles au service des musiciens. Donc, en fait, vraiment, mon objectif, c'est comment est-ce que je transforme des modèles pour une certaine tâche. Donc, Native Instruments, ils font un peu des modèles hardware, mais ils font beaucoup de software, donc des logiciels, enfin, des trucs sur l'ordinateur. Et du coup, on développe des synthés qui sont en software, et donc j'essaye d'intégrer en fait de l'IA là-dedans. Et mon travail en fait, c'est de dire ok, bah grâce à l'IA, on peut ajouter cette fonctionnalité, on peut y faire ça, etc., etc. Et donc je code des modèles pour un peu upgrader ces synthés.
Et les clients, ce sont des professionnels ou des amateurs?
Il y a les deux. Native Instruments, c'est énorme comme entreprise, donc il y a vraiment de tout.
Alors, est-ce que tu as déjà utilisé ton instrument dans un concert live et comment les spectateurs l'ont compris, l'ont accepté?
Alors oui, je l'ai utilisé, pas récemment, parce que depuis, il a eu quelques problèmes, comme j'ai dit, il n'est pas très stable. Le truc, c'est que, comme j'ai dit, c'est un petit module qui fait partie d'un grand système. Donc en fait, c'est pas tellement un instrument qui est reconnaissable, c'est-à-dire que ça fait partie d'un ensemble de choses. Donc là, en l'occurrence, quand je l'ai utilisé devant des gens, c'était pour générer des impacts. En fait, moi, comme j'ai dit, je fais pas des IA qui génèrent une musique complète, donc c'est juste un petit bout en fait de la musique qui apparaît de temps en temps. Donc c'est pas évident en fait pour un spectateur, un auditeur, de savoir ah bah ça c'est le Neurorack. En fait, c'est quasiment impossible de faire ça. Et en fait, j'ai fait quelques essais avec plusieurs modèles différents. Donc là, les impacts, c'est un peu facile. Enfin, ça se fond un peu beaucoup. J'avais fait un autre modèle qui faisait des générations de voix un peu étranges. Donc là, c'était plus reconnaissable. Mais ça, pour le coup, je ne l'ai pas joué en live, mais je l'ai utilisé dans mes productions. Donc plutôt en voilà chez moi où j'ai généré, et puis ensuite j'ai utilisé ça dans mes musiques. Donc voilà, la réponse, c'est que en fait, ça se sent pas forcément. On se dit pas ah bah ça c'est le Neurorack, ça c'est l'IA, ça s'entend quoi.
Parmi toutes les utilisations de l'IA que tu as faites, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement bluffé, impressionné, surprise?
Alors, bluffé, impressionné, non. Surprise, oui. J'ai envie de répondre bluffé, impressionné, non, parce que l'IRCAM ou même Native Instruments, on n'a pas du tout les compétences, enfin, on n'a pas du tout les serveurs nécessaires à faire des énormes IA comme peuvent le faire OpenAI ou ce genre d'énormes boîtes. Donc, je sais que l'IA peut être bluffante. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, en effet, c'est la surprise. Et là, oui, il y a plusieurs modèles qui m'ont vraiment surprise, où je me suis dit, oh là là, ça va rendre nul. Et finalement, le résultat, en fait, était vraiment intéressant. Alors après, il faut quand même se mettre dans la peau de quelqu'un qui est capable d'accepter la surprise. C'est-à-dire que si on se met à la place d'un musicien qui fait, par exemple, de la pop musique, qui va être donc écouté par une sorte de majorité et qui doit répondre à un certain nombre de critères esthétiques dans les normes, je dirais que c'est plus compliqué. Mais moi, qui suis plus dans la musique techno, un peu expérimentale, électronique, un peu niche, ou même musique concrète, un peu IRCAM, là, pour le coup, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des résultats qui sont, oui, qui sont intéressants, qui sont surprenants, mais qui répondent pas forcément à une norme attendue. Voilà.
Merci. Eh bien, c'est l'heure de conclure. Merci encore, Ninon, pour ce partage de tes connaissances, de tes expertises, de tes passions. J'ai eu la super chance de vivre ça en studio avec toi. J'espère que les auditeurs partageront un peu un petit peu l'énorme plaisir que j'ai eu à t'écouter. Trop merci encore, Ninon. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre grand pouvoir, votre énorme pouvoir. Likez et partagez, cela stimule l'algorithme pour nous proposer à d'autres. Et surtout, laissez-nous vos commentaires et impressions sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur LinkedIn, car cela nous fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À bientôt et on se quitte en musique.